Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce-et-Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous allons parler de la trahison de Judas. Et la première lecture, enfin la lecture même, ça sera en deux fois, c'est dans l'Évangile de Jean au chapitre 17, les versets 1 à 19. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie et que, selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont observé ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, que les paroles que je leur ai données sont celles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils ont véritablement connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi, et j'ai été glorifié en eux.
Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux restent dans le monde, tandis que moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. Je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, en sorte que l'Écriture soit accomplie. Maintenant je vais à toi, et je dis ces paroles dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie dans sa plénitude. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité.
Thank you.
J'aimerais que nous ouvrions ensemble notre réflexion par une interrogation, et peut-être même par deux interrogations. En effet, il me semble que nous nous enfonçons facilement dans les habitudes, et peut-être souvent de mauvaises habitudes. C'est du moins la réflexion que je me suis faite en entendant un jour un de mes fils au retour de l'école biblique insatisfait, parce que ses moniteurs ne semblaient pas d'accord sur l'interprétation d'un texte biblique. Comme si la Bible, recueil de témoignages humains inspirés par Dieu, n'était qu'un ensemble de recettes servies toutes faites à un troupeau passif.
Et c'est vrai que nous ouvrons la Bible d'abord et avant tout pour chercher des réponses. Rarement pour chercher des questions, des interrogations, des interprétations, voire même des doutes. En effet, le texte de ce jour, dans l'évangile de Jean au chapitre 17, et en particulier le verset 12, nous place devant une interrogation. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, en sorte que l'écriture soit accomplie.
Il est de bon ton aujourd'hui, surtout chez nous les protestants, d'insister sur la libération que Dieu nous donne par grâce et par grâce seule. Mais qu'en est-il pour Judas ? Judas qui livre Jésus, Judas qui, selon les évangélistes Matthieu et Luc, doit. Jésus doit être livré. Sur le chemin de Jérusalem, Jésus répète, redit, « Voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré. » Jésus dit qu'il est le bon berger et par trois fois il précise que le bon berger laisse sa vie pour ses brebis.
Tous les évangiles mettent en évidence le fait que Jésus ne s'oppose pas à son arrestation. Les évangiles, selon Matthieu et selon Luc, critiqueront même celui qui veut l'empêcher. Et Judas dans tout cela ? Il fallait que Judas trahisse Jésus pour que l'écriture soit accomplie. Beaucoup aujourd'hui l'acceptent, et même s'il y a quelques années, une littérature abondante se penchait sur cette question, aujourd'hui nous l'avons un peu oubliée, et c'est dommage.
Il fallait que Judas trahisse. Qu'est-ce que cela veut dire ? Et qu'est-ce que cela veut dire pour l'homme et pour sa liberté de choix ? La Bible nous pose là une question. Elle nous fait réagir. En tout cas, elle bouscule l'idée classique de Dieu et de sa relation à l'homme. Ce texte est une question, une authentique et fondamentale question.
Tout cela pour dire en fait que nous avons le droit et même le devoir de poser des questions à notre Père. Souvenons-nous de la célèbre phrase de Vinet : la vérité sans la recherche de la vérité n'est que la moitié de la vérité. Alors, recherchons la vérité, la compréhension. Cela est sain et, je dirais même, indispensable. Ce n'est ni anti-biblique, ni anti-évangélique, bien au contraire.
Mais il nous reste à intégrer l'interrogation. Nous vivons dans une société qui veut tout savoir, surtout, tout de suite, qui accepte passivement les recettes servies sur un plateau, mais non les doutes et les interprétations déstabilisantes, tant elle est impressionnable et en fait fragile et peu formée à se poser des questions.
À contre-courant, contre vents et marées, il nous faut nous insurger contre le désir de la simplification outrancière dont certains vivent et abusent, même les églises. Il nous faut accepter de ne pas tout savoir tout de suite, de garder des questions, et nous souvenir que la foi n'est pas un savoir. Radio Grand Ciel, émission de l'Église protestante unie, avec à la technique Simon Martin. Nous parlons aujourd'hui de Jésus et de Judas, avec toutes les questions que cela pose. Les intermèdes musicaux, ce sont des œuvres de clavecin bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, interprétées par la chinoise Zhu Xiaomei.
Continuons encore quelques instants, mais ils seront brefs, avec Judas. Et plus exactement, avec la tradition véhiculée sur Judas. La tradition ecclésiale a fait de Judas le traître par excellence. On le montre dans les tableaux comme un disciple plus petit que les autres, ou sans auréole, ou encore en train de voler du pain à la Seine, avec des cheveux rouges, avec le sac d'argent à la main. Bref, Judas le traître. Personne aujourd'hui n'oserait plus appeler son enfant Judas.
On est loin d'une autre tradition avec Irénée, un père de l'Église, un penseur du IIe siècle, qui relate l'existence d'un évangile selon Judas, connaissant seul parmi les disciples la vérité qui accomplit le mystère de la trahison. L'Église, les Églises, ont diabolisé Judas. Loin de moi l'idée de le disculper. Je pense qu'il avait en fait, comme tout homme, sa liberté de décision, et que Jésus, fils de Dieu, lit dans les cœurs, comme il l'a montré en d'autres circonstances, comme dans la rencontre par exemple avec la Samaritaine.
Dieu est plus grand que notre cœur. Ses pensées ne sont pas nos pensées, et ses chemins ne sont pas nos chemins, nous dit Ésaïe au chapitre 55. Mais la folie de Dieu est plus sage que notre intelligence. Ceci dit, pourquoi avoir diabolisé ainsi Judas ? Si on enlève le Judas traître, coupable, quel autre coupable allons-nous trouver ? Nous avons projeté nos désirs de trouver un coupable sur Judas. Nous avons cherché et trouvé une sorte de bouc émissaire. Lorsque quelque chose ne fonctionne pas, c'est toujours l'autre.
Rien ne valait le bouc émissaire dont se servaient les nomades. Ce bouc qui était chargé de tous les péchés et que l'on envoyait dans le désert pour en quelque sorte purifier, assainir la tribu. En tout cas, chercher un coupable, c'est se tromper lourdement. Jésus n'est pas mort à cause de quelqu'un en particulier, mais il est mort à cause de tout le monde, de tous, à cause des hommes et pour les hommes, pour l'humanité pécheresse et condamnée, pécheresse et pardonnée.
Nous quittons maintenant le domaine de l'interrogation pour celui ô combien plus rassurant et ici extraordinaire de l'affirmation, la finalité de la mort du Christ. Nous avons entendu tout à l'heure dans l'évangile de Jean au chapitre 17 les versets 4 et 5. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fin du monde. Jésus, Dieu fait homme, le temps d'une vie, et quelle vie ! Jésus, une révélation de Dieu.
Il est indispensable pour l'homme d'avoir une révélation. Une révélation, c'est-à-dire un intermédiaire, un truchement entre Dieu et les hommes. La révélation révèle Dieu. Il est certain que Dieu se révèle de manière universelle dans l'humanité, en toute culture, en toute religion et en toute époque de l'histoire. Mais surtout, Jésus, la révélation, accepte de mourir. Jésus meurt pour que sa personne concrète, historique, disparaisse et que soit vue la puissance de Dieu, le Rédempteur. Jésus, qui est le porteur de la bonne nouvelle, ne nous demande pas de l'idolâtrer. Jésus se déchire lui-même, se brise, pour donner sa pleine lumière à son Père. Il est la révélation qui se crucifie avant de retourner à la droite du Père.
Jésus, descendu vers nous à Noël, retourne auprès de Dieu à l'Ascension et déclare, au chapitre 14 de l'Évangile de Jean, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. » Ainsi, nous voyons que l'homme lui-même, par Jésus-Christ, est élevé vers Dieu. L'homme est appelé à sortir de l'aliénation, des conflits, des servitudes et participe activement au salut. Il n'y a pas de guérison sans volonté de guérir. Il n'y a pas non plus de salut sans la volonté de l'homme.
Sachons bien que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, n'essaye pas d'écraser l'homme. Bien au contraire, Dieu nous confie le monde. Dieu en Jésus-Christ, par le retour du Christ auprès de lui, nous laisse libres. Il renforce, redynamise, renouvelle l'homme. Il annonce un nouvel horizon, un horizon divin. Il n'impose pas. Il nous laisse libres de le choisir ou pas. Il propose une parole venue dire à l'homme qu'il a une valeur. Une valeur non pas mercantile, financière, productive, mais une valeur spirituelle, qualitative, qui lui permet de se transformer, de transformer le néant en vie, le désespoir en espoir, le renoncement en initiative, la culpabilité en joie. La vie éclate dans l'infini du royaume.
Nous allons poursuivre par un point non plus d'interrogation ni d'affirmation, mais des points de suspension. Avec le verset 18 du chapitre 17 de l'évangile de Jean que nous avons entendu tout à l'heure. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. » Jésus nous envoie, nous chrétiens, nous Église. Les chrétiens, les Églises, ont des défis à relever. Si nous regardons l'histoire, nous découvrons que souvent, les Églises n'ont pas réagi aux défis à relever, aux situations inacceptables, aux injustices, aux guerres, aux tortures.
C'est à nous, c'est à chacun d'entre nous, c'est donc aussi à l'Église, de passer tous les jours par la croix, par la seule autorité qui la guide et la conduit, celle du Christ. Le chrétien vit avec des points de suspension sa vie intérieure. Quelqu'un auprès de toi se tient en sentinelle. Plutôt que toi, il s'éveille en ta demeure. Il comprend toujours mieux que toi-même tes rêves et ton secret. Il voit ce que tu croises et qui ont mal, même si tu gardes les yeux fermés. Il pardonne à ta place ce que tu juges. Il tremble quand tu fais le fier. Il veut quand tu crois que rien ne vaut la peine. Il entend le cri qui t'étrangle dans ta solitude. Si tu connais son nom, appelle-le. Et si tu ne le connais pas, appelle-le plus fort encore.
Le chrétien vit avec des points d'interrogation. Il se pose sans cesse des questions. Il remet en cause sa lecture du monde, sa lecture de la Bible. Et c'est salutaire. Et je conclurai, le chrétien vit au-delà d'un point. Un point à jamais laissé par la croix dans le sol de notre terre. Un point qui achève une période ancienne, comme une phrase s'achève. Un point qui nous permet de débuter une nouvelle phrase, une nouvelle phase, une évolution, et même une révolution. Car après le passage de Jésus de Nazareth, plus rien n'est comme avant.
La phrase d'éternité, à laquelle chacun librement peut apporter sa part d'amour, d'espérance et de foi, parole devenue vivante pour l'humanité tout entière, se tisse et se construit prière après prière. C'est le point de fin de nuit qui marque la fin de la nuit des temps. C'est enfin le point du jour, point qui voit le jour poindre, le jour d'éternité qui s'offre à nous tout neuf, dans sa fraîcheur et sa paix de matin de Pâques. Amen. Et nous vous invitons pour terminer à dire ensemble une petite prière d'André Dumas sur le silence. Notre Dieu, accorde-nous le silence, cette plage où nous pourrons nous retrouver. Écarte de nous ces essaims de paroles qui bourdonnent, tourbillonnent et piquent comme les abeilles alentour de nos ruches assaillies. Délivre-nous du trop grand nombre de sollicitations et de remise en question. Permets-nous d'aller en forêt, là où les oiseaux se taisent, où les pas s'assourdissent, où le ciel lui-même ne pèse plus sur nos têtes comme un couvercle flamboyant. Notre Dieu, donne-nous le silence comme seul compagnon pour le moment désirable à nos cœurs. Car notre Dieu, nous en avons assez des conversations qui s'éternisent, des lectures qui nous avalent, des films qui nous distraient et des prédications qui nous fatiguent. Nous avons même assez de nos amis qui nous surpeuplent et des projets qui nous attendent. Nous avons assez de tout ce qui n'est pas le silence de la nuit, quand il enveloppe la terre et recouvre la journée.
Notre Dieu, visite-nous avec le silence, toi qui ne parles pas tout le temps, mais qui te tais, toi qui ne harcèles pas l'humanité, mais qui la laisse être, toi qui te tiens dans le retrait pour que nous vivions dans la détente de ta paix. Permets que ce silence nous régénère et nous rajeunisse pour que nous en sortions brillants et parés de neuf comme le soleil au matin. Permets-nous l'interruption recréatrice du silence où pourra mûrir une vie rafraîchie. Apprends-nous à nous taire quand nous ne pourrions plus que répéter et affaiblir. Apprends-nous à faire taire quand nous ne saurions plus que bavarder et envahir. Apprends-nous à jouir du silence qui est le bruissement du monde et le dépliement du cœur. Ô Dieu, nous n'adorons certes pas le silence, car nous connaissons bien ces multiples démons intérieurs et nous te les nommons. Le mutisme et l'effroi, l'indifférence et le mépris, essentiellement le gouffre et le vide. Mais nous aimons le silence que tu as donné comme compagnon à nos vies, tout comme il est plaisant de cligner de l'œil avec un enfant en mettant le mutisme du doigt sur nos lèvres closes. Notre Dieu, toi qui es la parole même, nous te remercions pour le silence où nos vies reposent. Amen. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches à 10h30 au temple 20 rue Saint-Thomas à Chartres. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.